Accès direct numéro 10.
Alors, Rose, ô pure contradiction, volupté de n'être le sommeil de personne sous tant de paupières.
Accès direct avec Anne-Marie Miéville, dont le film « Lou n'a pas dit non » sort le 21 décembre. Les interlocuteurs qu'elle s'est choisis, Jean-Claude Guiguet, critique et cinéaste, et Gilles Merlet, agent artistique. Les critiques que nous lui avons choisies, Jean-Michel Frodon du Monde et Thierry Jousse des Cahiers du cinéma. Avec vous, Anne-Marie Miéville, j'avais envie de parler un peu de l'enfance de l'art, remonter à l'enfance. Le film rappelle d'ailleurs combien l'enfance est au commencement. Et d'ailleurs, votre premier souvenir de cinéma remonte à l'enfance.
Oui. Mais je suis originaire d'un pays dans lequel il y avait une censure assez terrible au niveau des âges. Ce qui fait que les premiers films, on avait le droit de voir un Mickey à 7 ans, le tour du monde en 80 jours à 14 ans. Et là où il y avait un peu d'amour et de passion, il fallait avoir 16 ou 18 ans. Donc je crois qu'un de mes premiers souvenirs, ça avait été Crin blanc, quand j'étais donc toute petite.
Mais bien avant ça, dans votre chambre, à l'âge où les petites filles jouaient à la poupée, vous jouiez au cinéma.
Oui, je jouais au cinéma. Ouais, bah, oui, il n'y avait pas possibilité d'aller au cinéma, il n'y avait pas la télévision, Dieu merci. Et effectivement, je m'étais fabriqué une petite boîte à me projeter des négatifs de famille dont j'avais découvert qu'il fallait les mettre à l'envers pour les projeter à l'endroit sur le mur, avec un carton à chaussures, une ampoule. Et effectivement, je me faisais des petites séances, j'imaginais des fictions, je faisais des commentaires. Voilà.
Et le cinéma, c'est un jeu d'enfant ?
Je ne sais pas si ça l'est encore, mais ça devrait l'être.
En tout cas, le regard de l'enfant faisait la différence entre ses images et ce qui, par ailleurs, dans la vie, lui sautait aux yeux. Un peu comme la petite fille du film.
En fait, pas véritablement, je dirais. C'est peut-être pour ça que dans chacun des thèmes des films que j'ai abordés jusqu'à maintenant, c'est toujours des sujets, c'est toujours un peu les mêmes. C'est les enfants, les relations entre les petits, les grands, les relations entre les hommes et les femmes. Parce que précisément, les images que je me projetais sur mon mur, c'était des familiers. Donc, pour moi, ça devait rester quelque chose de familier.
Un roman familial. Et puis, le cinéma, vous l'avez retrouvé plus tard. Alors
oui.
Là, en voyant des vrais films, pas les vôtres.
Oui, tout à fait. Bah, les premières émotions de cinéma, ça avait été Antonioni, je me souviens. C'était l'Aventura. C'était effectivement une manière de raconter, de dire les choses qui étaient très différentes à l'époque. Et le milieu petit bourgeois duquel j'étais issue m'avait effectivement pas prédisposé à comprendre, à découvrir, à voir qu'il pouvait y avoir ça aussi. Et oui, ça avait été une expérience très secouante et alléchante.
Puis vous avez fait de la photo, vous avez fait du montage, vous avez écrit pour le cinéma, vous avez fait de la direction artistique. Bref, vous avez tourné autour du cinéma avant d'en faire.
Oui.
Sur le tas.
Mais j'ai pris mon temps. C'est vrai que le fait d'avoir occupé comme ça divers postes, d'avoir appris la photo, enfin tout ce que j'ai fait, je l'ai appris en le faisant ou je l'ai fait en l'apprenant. Et c'est vrai que c'est une fois que j'ai un peu tourné autour et un peu observé les choses depuis différents angles, différents postes, que je me suis dit que je pouvais peut-être essayer à mon tour.
Vous avez écrit des scénarios, par exemple pour Sauf qui peut la vie. Et Prénom Carmen.
Au Prénom Carmen, je crois qu'il y a eu Mère Imée avant nous, mais il y avait une revisitation, oui, un petit peu.
C'est difficile de travailler avec Jean-Luc Godard ?
C'est pas plus difficile qu'avec n'importe qui, non. En tout cas, le temps où j'ai travaillé avec lui, notamment comme co-scénariste, c'est vrai que je proposais un certain nombre de choses et puis ensuite, bah, il en faisait ce qu'il en voulait. Et je n'avais pas de velléité, disons, de marquer mon territoire. Voilà.
Qu'est-ce que vous lui avez appris?
Mais je ne sais pas, peut-être à mieux voir certaines choses qu'il ne voulait pas voir avant. Mais il vous le dirait mieux lui-même.
Oui, mais on a du mal à l'interviewer en dehors des conférences de presse.
Bon, il n'en fait plus non plus.
C'est lui qui vous a incité à faire vos premiers courts-métrages?
Non, 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 pas du tout. Non, quand j'ai senti que l'heure était venue, bah voilà, j'ai commencé par un petit court-métrage avec quelques personnes que je connaissais en Suisse, et puis voilà, j'ai fait.
Des courts-métrages qui, au début, accompagnaient des films de Godard.
Ben oui, c'était une maigre garantie d'avoir la possibilité que ce court-métrage ne reste pas sur une étagère, parce que le sort des courts-métrages est assez sauvage. Souvent même, on vous dit, l'important, c'est de l'avoir fait, c'est pas tellement qu'il passe. Et je crois que dans les salles, souvent, ils sont programmés, mais ils restent un peu dans la cabine et ils ne sont pas projetés, malheureusement. Il y en a même un d'ailleurs qu'on avait collé sur le négatif pour être sûr qu'il passe avec, c'était le livre de Marie.
Le premier long métrage, c'est en 1988, Mon cher sujet, un film sur la solitude et l'indifférence qui développe l'idée de filiation à travers trois figures de femmes.
Oui.
Il y a trois époques différentes.
Oui, bon, je dirais que c'est plus que sur la solitude, sur la filiation, ce qui permet de mettre en évidence effectivement cet aspect-là de l'existence vécue à différents âges de la solitude.
Lou n'a pas dit non, c'est le deuxième, je ne vais pas dire le second. Il a été fait 6 ans plus tard.
Oui.
Ça fait pas mal de temps, ça, entre deux films.
Oui, ça fait beaucoup de temps. Mais c'est un choix que j'ai fait pour des raisons personnelles où pendant un certain nombre d'années, effectivement, j'ai fait un peu plus des petits boulots, comme on dit, parce que j'avais décidé de remplir mon existence avec d'autres choses et en particulier l'accompagnement de mes vieux parents jusqu'à la fin de leur vie. Mmh. Voilà.
L'accueil du film est étrange. Hein. Il a été boudé à Cannes par la section Un certain regard. Puis par le jury de Locarno, malgré un accueil de la presse presque unanime. Il a reçu le prix de la critique au Festival de Montréal et plus récemment le Grand Prix du Festival de Belfort. Donc un accueil partagé entre une certaine résistance et en même temps la consécration.
Consécration, non.
Si, vous allez voir.
Non, je crois qu'il ne faut pas se faire peur avec ces mots-là. Je pense qu'effectivement, c'est un film qui est peut-être un peu particulier, qui peut provoquer certaines rencontres avec certaines personnes et pas avec d'autres. Et bah, c'est tant mieux, parce que si c'était une tiède indifférence, on serait peut-être plus embêté.
Alors, je sais que vous n'aimez pas parler des films que vous faites. Hein, vous pensez qu'ils se suffisent à eux-mêmes et qu'il faut. Bah,
c'est-à-dire que mon travail, il est fini maintenant, en principe. C'était faire le film, et c'est vrai que j'ai un peu de peine à. Thierry Joussan, c'est quelque chose. J'ai un peu de peine à revenir parler par-dessus. J'ai l'impression d'avoir dit juste à ce moment-là ce que je voulais dire par rapport à ce thème. Et s'il y en a d'autres dont c'est la spécialité. D'avoir envie de s'exprimer, je suis très heureuse de les écouter.
Oui, mais vous pouvez nous aider peut-être en nous expliquant un peu comment tout ça a été fait. Par exemple, à partir de quels éléments vous avez bâti le scénario du film.
Oui, on peut redire. Il y a eu trois éléments de base. C'est un film qui s'est construit effectivement, comme je n'ai pas tourné pendant longtemps. Il y a des éléments comme ça que j'ai rencontrés dans la vie et que j'ai gardés comme ça en mémoire. En me disant qu'il faudrait que j'essaie de les allier et de faire quelque chose avec. Alors c'était parti chronologiquement par la statue romaine antique de Mars et Vénus, que j'avais filmée pour le musée du Louvre dans un petit film de 2 minutes qui se trouve à la fin de Lou n'a pas dit non. Il y avait eu aussi, il y avait eu le choc aussi d'un spectacle de Galota, qui datait de 88, qui s'appelait Docteur Labus, qui était fait de quatre duos dansés. Et un des duos m'avait particulièrement touchée, intéressée. Et voilà. Et puis, il y a eu effectivement quelques éléments relevant de la correspondance entre... Enfin, disons, la naissance du titre vient un petit peu de la correspondance entre Lou, Andrea Salomé et Rainer Maria Rilke. J'ai toujours été assez interloquée par le fait que, à la question qu'il lui posait assez régulièrement de savoir s'il serait bienvenu pour lui de se livrer à un travail analytique, elle, qui était versée en la matière, l'a toujours plutôt déconseillé de le faire.
Donc, dans les trois cas, Rilke, Lou Andrea Salomé, la statue romaine et le spectacle de Galotta, des couples.
Des couples, oui. Oui, différentes expressions de couples. Ceux de marbre, ceux de chair, ceux d'écriture.
Et pourquoi aller chercher ailleurs, alors, dans l'art, par exemple?
Mais parce que je crois qu'aujourd'hui,
réponses à la question.
Oui, pardon.
Non, allez-y.
Non, j'ai terminé votre question.
Non, je veux dire la question du couple.
Oui, mais alors pourquoi se priver d'inviter effectivement les arts pour essayer d'accompagner un cheminement, une pensée ou une présentation comme ça de certains moments de couplage, d'autant qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même un appauvrissement général. Je crois qu'il ne faut pas se priver de se tourner vers les belles choses qu'on n'a pas inventées, mais qui sont bon enfant et qui se laissent inviter à la fête.
Et même un vieux poète du 19e a des choses à nous dire, à nous, aujourd'hui.
Un vieux poète? Ah, vous êtes gonflé. Un vieux poète?
Oui.
Non, je ne trouve pas que Rilke soit un vieux poète.
Il n'y a que les poètes qui ne vieillissent pas.
Je pense.
Et la danse, alors, c'est elle qui prend le relais de la parole dans des situations limites? C'est elle qui nous ouvre les yeux?
Oui, je pense. Je pense qu'à des moments, là, cette expression corporelle qui va bien au-delà de la parole, en ne se servant pas d'elle, mais en se servant des corps et des mouvements, permet de dire... dans un temps comme ça, assez resserré, énormément de choses sur le couple.
Déjà dans le livre de Marie, si je me souviens bien, il y avait une petite fille qui,
oui,
qui dansait.
Oui, une petite expression corporelle, ouais, d'une petite fille.
Lou est cinéaste, donc elle fait profession de voir, de regarder, mais aussi d'écouter. Elle est attachée à un service d'écoute téléphonique, pas tout à fait comme ceux qui défraient la chronique aujourd'hui. Elle écoute les gens qui demandent de l'aide. Mmh. Et elle dit qu'il y a dans ces appels de la pesanteur, mais aussi de la grâce.
Oui. Ben, c'est vrai que donner dans le film au personnage de Lou cette fonction de répondant bénévole qui prête parfois un peu à rire, mais qui n'est au fond pas si risible... c'était aussi une manière de montrer comment, enfin de mon point de vue, de montrer comment tout le désir d'amour qu'on peut avoir à l'endroit d'une relation et qui ne peut pas forcément s'échanger à cet endroit-là, peut aussi se disperser et s'échanger ailleurs. Et c'est vrai que dans les choses qu'elle entend, il y a des choses lourdes, parce qu'entendre des gens qui se plaignent de leur solitude quand on est soi-même confronté à cette chose, c'est pas toujours... Et en même temps, il y a aussi des manifestations poétiques dans ces appels qui sont, je pense, très enrichissantes aussi.
Est-ce que ce film qui est nourri d'art, hein, donc la sculpture, la danse, la musique aussi, dont nous n'avons pas parlé, mais qui joue un rôle... important, est ouvert sur les malheurs de la vie, enfin les misères économiques et morales d'aujourd'hui?
Oui, il est là pour les dire, pour les souligner, pour les accompagner aussi, et oui, redonner peut-être un peu d'espoir les moments où on en manque.
Il faudrait qu'on parle de la lumière également, qui est une lumière naturelle, alors que le film... rien de naturaliste, ne serait-ce que par le langage qui est parlé dans ce film, qui est un langage littéraire plutôt.
Pas tout le temps. À certains moments, oui. Il est assez nourri de Rilke. Il y a beaucoup de citations de Rilke. Donc, effectivement, c'est un langage qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas un langage quotidien. Il y a des moments qui sont plus quotidiens. Il y a des deux. La lumière, vous disiez, elle est toute simple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient difficile de pouvoir trouver cette simplicité.
C'est un luxe, cette simplicité.
Ça ne devrait pas, mais peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça tient beaucoup à l'état, un certain état de, je dirais, d'humilité de la part du chef opérateur, quelqu'un qui accepte de partir vraiment du film, de ce qu'il dit, des personnes, des décors, et qui, avant d'arriver dans un décor, ne dit pas tout de suite « il me faut un camion, 15 HMI », mais qui part là où on va mettre la caméra là, on va filmer telle chose, on regarde ce qui se passe, et puis on voit s'il faut aider un peu la nature ou pas. De manière à respecter aussi des zones d'ombre et pas que d'être baigné de lumière comme c'est un peu devenu aujourd'hui.
Jean-Michel Frodon et Thierry Jousse vont revenir avec vous sur le film dans un instant. Mais d'abord, la musique que vous avez choisi de nous faire écouter ce soir.
Oui, alors c'est une vocalise chantée par une soprano coloratour qui s'appelait Rita Streich. Et c'est un air qui s'appelle Le Rossignol et la Rose, qui est de Camille Saint-Saëns, qui n'est pas mon compositeur favori, mais j'aime beaucoup cette vocalise. Et puis, c'est une voix humaine. C'est un peu proche de l'expression corporelle aussi. C'est une voix humaine et sans parole.
Et puis, il y a la rose.
Oui, il y a la rose aussi. Oui. Mais il n'y a surtout pas de parole. Ça fera du bien.
Thank you.
Le Rossignol et la Rose de Camille Saint-Saëns. Lou n'a pas dit non, d'Anne-Marie Miéville, sous le regard des critiques. Jean-Michel Frodon d'abord.
Moi j'ai un petit peu peur que, avec la manière dont on a parlé du film dans le début de l'émission, on en ait une image, puisque le film n'est pas encore sorti.
Il sort le 21 décembre.
Émietté un peu pas en morceaux. Il y a Rilke ici, il y a de la danse ici, il y a la statue antique dans un autre coin. Alors que ce qui est tout à fait impressionnant dans le film d'Anne-Marie Miéville, c'est la manière dont tous ces éléments sont à la fois fondus ensemble et participent à un même mouvement, à une même dynamique, à quelque chose qui avance ensemble en permanence. Et on pourrait même y inclure l'enfance dont il a été question tout au début, au sens où je crois que le film est très lucide de ce point de vue-là, en ne faisant plus comme si on était dans l'enfance de l'art, en ne considérant plus l'enfance comme quelque chose de donné. Il y a quelque chose à refaire et tous ces éléments servent à le refaire, qui serait cette espèce de je ne sais pas, d'astre central qui brûle et qui chauffe au centre et qui éclaire, et à partir duquel on fait les films, on fait les images, et avec cette lumière, on voit les gens et on voit le monde. Et ça, on le trouve dans le film d'Anne-Marie Miéville, dans Lou n'a pas dit non. C'est d'abord, et il me semble que ça ne se sentait pas vraiment dans la manière dont on en a parlé, c'est d'abord un film extraordinairement émouvant, c'est un film qui vient avec tous les éléments culturels, mais qui n'ont pas du tout la fonction que les choses culturelles ont prises dans une période récente. N'ont pas du tout une position dominante, ou c'est pas des trucs posés sur des dessus de cheminée pour dire je m'y connais en poésie allemande et puis aussi en statuaire antique. Ce sont du carburant, des choses qui sont consommées par le film pour que le film avance et se fasse. Et si c'est pas une question vraiment, ce serait plutôt une espèce d'incitation, mais je sais pas si on peut parler plus avant de ça, de comment on rentre là-dedans, comment on se contente pas seulement de collationner des éléments, mais comment on fait naître un mouvement à partir de ça.
Anne-Marie Miéville.
Ah, c'était une question.
C'est une question camouflée.
Mais je crois que ces éléments que vous avez rassemblés en le disant très bien, là, et qui étaient effectivement un petit peu éparpillés au départ, je crois qu'effectivement, il n'y a pas du tout un côté collection. Tiens, je vais prendre un peu de ci, un peu de ça. C'est vrai que pendant ces 6 années où je n'ai pas refait de film, il y a eu ces rencontres et ça a été chaque fois des vraies rencontres qui m'ont complètement imprégnée, habitée, et que j'avais envie, à qui j'avais envie de reprêter vie sous une autre forme, en les alliant et en les mélangeant à l'histoire de Pierre et de Lou. Donc effectivement, c'est plus ce que vous disiez que...
Je vais reposer la question différemment. non pas qu'il n'y ait pas été répondu, mais pour jouer un peu autour de la même idée. On a compris donc que le film tourne autour de l'idée du couple. Vous faites couple avec tout ça, vous, cinéaste. Comment il se fait ce couple-là? C'est un film qui n'est pas solitaire. On ne sent pas la solitude. Il est beaucoup question de la solitude des gens, la solitude qui existe dans la réalité, mais c'est un film qui n'est pas, où on ne pense jamais que la personne qui est en train de le faire est séparée et disjointe de ce dont elle parle, des situations et des sentiments auxquels elle a affaire. Comment ça se fait, le couple Anne-Marie Miéville, Lou n'a pas dit non?
Bah, c'est un petit peu comme je venais de vous répondre. C'est que ça s'est fait. Non, mais ça s'est fait sur le temps. Il y a une lente maturation. C'est vrai que je travaille en plus lentement. Et qu'il y a eu une sorte de lente maturation jusqu'à ce que les choses fassent un peu corps avec moi et moi avec ces éléments. Et que ça ne reste pas juste au niveau d'une écriture ou d'une construction écrite. Mais c'était oui. Voilà.
Thierry Jousse.
Oui, non, c'est pas
vous qui avez l'art de poser les bonnes questions.
Non, mais avant de poser une question, je voulais juste rebondir un peu sur ce que disait Jean-Michel Frodon et sur ce qui avait été dit d'ailleurs sur la question, sur justement la question de l'art, qui au fond est un mot que j'ai tendance à ne pas employer volontiers pour le cinéma et qui tout d'un coup, en voyant ce film, m'a semblé assez évident et assez limpide. C'est-à-dire que c'est un film qui au fond donne envie d'employer le mot art. Donc qui s'oppose forcément à culture aujourd'hui, puisque justement, pour un peu aller dans le, enfin, abonder d'une certaine manière dans le débat qui a été amorcé ici et là, ce soir, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout des objets culturels qu'on serait censé consommer dans ce film, mais plutôt...
Oui, c'est pas du tout un film ennuyeux. Pour
non, mais je parle même pas de la question de l'ennui, qui est encore une autre question, mais en tout cas, ça n'est pas, effectivement. C'est plutôt que c'est un film qui, même, en même temps, donne à voir des moments d'art qui sont effectivement noués de manière absolument rigoureuse avec un centre nerveux qui est celui de ce couple qui est quand même joué par deux acteurs qu'on n'a pas encore cités, qui sont d'un côté Marie Bunel et de l'autre côté Manuel Blanc, qui sont quand même deux pièces, enfin je dirais de corps et deux acteurs qui jouent un rôle important dans le film. Et ces moments d'art, il me semble que le film leur redonne aussi un espace-temps. Et j'oserais comparer ça avec le, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, alors ça me... avec la préface du livre de Solers qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La guerre du goût, où Solers, un peu comme ça, polémique sur la question de la culture, et il propose, il dit de manière, enfin je ne pourrais pas reciter ce qu'il écrit exactement, mais il dit simplement qu'au fond, les auteurs qui sont du passé, par exemple ceux sur lesquels il écrit, on pourrait dire de la même manière, ces auteurs qui sont aussi dans le film d'Anne-Marie Mieville, ils sont absolument présents, qu'il n'y a pas d'histoire, je dirais, à faire au sens comme ça, linéaire du terme, mais que tout est là à partir du moment où une subjectivité s'inscrit, quoi. Et ça, je trouve que c'est très fort dans le film parce que ça, enfin, d'abord, il y a une audace à faire ce geste-là, et je trouve que ça n'est jamais effectivement fait sur l'idée, l'idée du substrat culturel comme ça qui viendrait effectivement, qui serait saupoudré sur le film. Donc, et puis l'autre point sur lequel qui m'a frappé dans le film, c'est que c'est un film qui reprend ou qui creuse l'irréconciliation, quoi, de façon assez forte, c'est-à-dire à la fois sur la question du couple, question moderne qui a déjà effectivement Antonioni et d'autres s'y sont déjà affrontés, mais il n'est pas forcément inintéressant de continuer à s'y affronter aujourd'hui, et cette irréconciliation qui est aussi effectivement liée à l'irréconciliation, je ne sais pas si elle est sociale, politique, existentielle, enfin qui est l'irréconciliation d'aujourd'hui, que je trouve assez remarquablement mis en avant par la dernière partie du film, qui est peut-être celle que je préfère personnellement, c'est-à-dire la partie où l'héroïne, donc Lou, se retrouve solitaire et solitaire, en temps de dialoguer avec d'autres solitudes, donc dans ces séquences de téléphone qui sont très très belles et très poignantes, et où il y a une sorte de, je dirais, de presque d'absence de, enfin de d'impossibilité, oui, de réconcilier des voix qui me semble être vraiment l'époque dans laquelle on est, quoi. Et en même temps, il y a une réponse poétique à cette époque, justement, qui est très forte dans le film. Donc je trouve que c'est un film qui est très présent aussi par ces raisons que j'ai tenté d'expliquer, me semble-t-il. Voilà, je sais pas, j'ai pas posé de questions à Anne-Marie Mieville. Non, c'est pas que je
vous êtes timide.
Pas du tout. Non, absolument pas. Mais non, moi j'aurais envie de lui poser des questions extrêmement concrètes et très précises, oui, sur, à la limite, vous avez parlé un peu de la lumière, mais il faudrait découper le film scène par scène et demander à la limite comment tel geste s'obtient à tel moment ou par quel objectif on peut, avec quel objectif on travaille sur tel plan. Je veux dire que c'est un peu ça qui m'intéresserait de savoir. C'est au fond, comme il y a une dimension que je dirais chorégraphique, pas seulement parce qu'il y a la chorégraphie Calota, mais aussi, me semble-t-il, dans la façon dont les acteurs jouent, comment est-ce qu'on obtient cette chorégraphie simplement en travaillant très concrètement avec Manuel Blanc, par exemple, et Marie Bunel.
Anne-Marie Mieville.
Mais il n'y a pas vraiment de recette ou de technique. Je crois qu'il y a eu une véritable rencontre avec les comédiens, avec Marie d'abord, avec Manuel ensuite. Enfin, je dis ensuite parce que il est intervenu plus tard dans le tournage, ce qui n'était pas disponible au début. Il y a eu une véritable rencontre pour eux avec le film, avec ce qui leur était proposé de dire, comment le dire, ce qui n'était pas toujours simple quand il y avait des choses un peu plus littéraires. Et puis une rencontre aussi entre eux et moi, et qui a instauré un climat que j'avais rarement connu comme ça sur un tournage, qui était extrêmement joyeux, détendu et calme et très agréable. Et on a travaillé petit à petit dans une discipline assez grande pour éviter que ce soit le fouillis et que les énergies se dispersent. Mais voilà, je peux... comme ça.
C'est un film qui comporte des vrais moments de légèreté, comme ce moment, on peut citer au hasard, dans le film où les deux amants, enfin le couple, décident d'aller sur la tombe de Rilke et partent comme ça de façon un matin ou un petit matin. C'est un moment comme ça qu'il faut voir parce qu'il est très musical dans le montage et dans le mixage, mais qui est un moment de pure légèreté comme ça. Il y en a quelques-uns dans le film.
Les scènes d'écoute téléphonique, c'est pas du cinéma vérité, ce sont
Non, c'est pas du cinéma vérité, non. Non, c'est des choses...
Ce sont des dialogues que vous avez écrits.
C'est des dialogues écrits, réécrits. C'est aussi, là, quelques poètes invités. Il y a Musset, il y a Artaud. Et puis, il y a des choses écrites. C'est mélangé.
Jean-Michel Frodon.
Oui, moi, je voudrais reprendre... À mon tour, le fil un peu lancé par Thierry Jousse. Effectivement, le film tourne autour de la question du couple, mais il n'est pas coincé sur le couple. Le couple est là, il est central, mais c'est pas du tout un couple refermé sur lui-même, c'est pas un couple introverti. Et le film a autant à voir, me semble-t-il, avec la question de la communauté au sens large, la question du groupe. Et il est la communauté indissoluble des amants, par les batailles, je crois, je ne suis pas sûr. Il sert aussi de métaphore à la communauté, à une idée plus large, plus chaude et au moins aussi problématique aujourd'hui, qui est celle de la relation collective dans un sens beaucoup plus général. On le perçoit de manière très claire au moment, effectivement, où à la fin de son film, Anne-Marie Miéville ouvre le champ pour passer des relations à deux, à trois, enfin des relations qui tournent autour de relations entre deux personnages. Il en intervient des couples de deux successifs. À cette idée du groupe à travers les appels téléphoniques et les images de la ville qu'on voit avec, qui ne sont pas l'illustration littérale de ce qu'on entend à ce moment-là sur la bande-son, et qu'il y a, ce champ beaucoup plus large dans le film qu'il ne faudrait pas encore une fois en donner une image de quelque chose de resserré et de s'effondrant vers son centre, alors que c'est un film qui est plutôt ouvert sur un groupe beaucoup plus large, et je trouve qu'il nous regarde de manière plus générale que seulement sous l'angle du couple au sens habituel de l'acception du terme, pour continuer à jouer puis à la persécuter, puisqu'elle est là pour ça, donc on va lui reposer des questions. Moi, j'avais envie de lui poser deux questions sur les deux formes d'accès premier qu'on peut avoir à son film, le titre et la première scène. Le titre est curieux avec sa double dénégation, et c'est manifestement un choix très... c'est un choix qui n'est pas évident, qui ne découle pas, donc qui est un choix très réfléchi, et le titre lui-même est réflexif, si on peut dire. Et la première scène du film, dont je vous laisserai dire, Anne-Marie, ce que vous souhaitez en dire, en tout cas, on peut dire qu'elle institue immédiatement un trouble, qu'elle met le spectateur dans une position d'incertitude qui n'est pas la procédure habituelle par laquelle les cinéastes invitent les gens dans leur film.
Alors, la question du titre d'abord, dans un premier temps, quand j'étais aux prémices de ce travail, Le titre, c'était « Lou n'a pas dit oui », puisque c'était lié à, au fait que Lou, Andrea Salomé, n'a pas dit « Oui, Rainer, vas-y ». C'était « Lou n'a pas dit oui ». Et puis, au fur et à mesure que le scénario a commencé à se structurer, à se faire former, je me suis dit « Non, c'est limitatif, c'est restrictif. » Et étant donné ce que devenait le personnage au travers du film et son cheminement dans le film, c'était au contraire quelqu'un qui ne disait pas non, et ça supposait une ouverture quand même.
En même temps, il y a plus de pugnacité, d'une certaine manière, dans cette formulation-là, pugnacité qui est aussi dans le film, que dans « Lou n'a pas dit oui », qui pourtant est la vraie négation, du point de vue grammatical.
Et puis, la deuxième chose...
C'était la scène d'ouverture.
Mais c'est vrai que, d'abord, dire deux mots de cette scène, c'est une scène qui présente le personnage de Pierre, le protagoniste ancien amant de Lou dans le film. C'est une scène qui le présente dans son enfance. Et ensuite, quand on présente le personnage de Lou aussi dans le film, elle est aussi représentée dans une scène de son enfance. Et là, eh bien, il s'agit j'ai mis en scène comme ça, mais il s'agit d'un souvenir d'enfance. Je ne sais pas s'il est réel ou s'il est un peu imaginaire de la part de Rilke que j'avais vu dans les cahiers de Malte. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai abandonné cette idée, mais c'est vrai que ça m'aurait intéressé une fois de faire un film où on montre les personnages dans une scène de leur enfance, comme ça. Mais bon, on ne peut pas le systématiser, ça deviendrait effectivement un mécanisme. Mais je trouve que là, en peu de temps et peu de mots, dans une situation, on peut déjà donner beaucoup de choses à voir d'un personnage qu'on retrouve plus tard et dont on peut comprendre peut-être mieux le cheminement ou la position.
Thierry ?
Non, mais c'est un film qui est assez difficile à faire sentir parce que il est très physique. Moi, c'est un peu ça que j'aurais envie de dire simplement après ce qu'on a déjà dit. Mais c'est vrai qu'il est quand même fondé sur une notion d'écriture, ce qui est quand même pas non plus si fréquent aujourd'hui. Et il y a une dimension très tactile, quoi, très sensuelle dans le rapport entre le bruit, la musique, la voix, le surgissement de l'image, enfin l'ombre et la lumière, enfin tous ces éléments qui comme ça jouent de façon permanente dans l'alliance, avec des moments où effectivement il y a une continuité comme ça tout à fait nette, par exemple dans le moment du ballet de Galotta, qui est sans doute le moment un moment clé, et peut-être un moment qui, disons, où là, le spectateur est mis au défi de regarder d'une certaine façon en continuité, même si je crois que le ballet n'est pas intégral, mais néanmoins une continuité comme ça assez, assez rare, là aussi. Et il y a vraiment une composition, quoi, d'éléments physiques qui, moi, m'a beaucoup touché dans le film et qui relève effectivement de ce que je ne peux pas nommer autrement qu'une écriture, quoi, qui a tendance à se faire un peu rare des fois dans le cinéma contemporain, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un film qui n'est pas complètement il n'y a pas un marketing qui le suppose, le film n'est pas déjà prévendu avant même d'être fait, quoi. Il arrive à terme, et puis il se présente de façon fragile devant nous, quoi, devant ses spectateurs, et je trouve assez, assez émouvant au fond dans ce film.
Donc un film qui pourrait avoir la chance d'avoir la couverture des cahiers du cinéma.
Et il l'a raté de justesse, mais dans le numéro qui est déjà paru, mais oui, il aurait, potentiellement, oui. Mais ce n'était pas un film qui fait forcément, d'ailleurs, l'unanimité, parce que j'ai remarqué, je ne parle pas spécialement des cahiers, mais des gens que j'ai rencontrés comme ça, qui ont vu le film déjà, que c'est un film qui provoque des affects forts et qui a vraiment... que les gens aiment assez fortement, que d'autres gens rejettent parfois. Et il y a une vraie... j'aime bien ça, d'ailleurs, aussi. Il y a un côté parfois extrême aussi dans le film qui est sa vraie force, que je trouve. C'est pas un film qui veut réconcilier, disons, l'ensemble, tout le monde, quoi. Il est il n'est pas vraiment dans cette logique-là.
Non, puis c'est aussi, pardon, mais c'est aussi un film qui a une grande cohérence interne qui fait que il sollicite quelque chose avec lequel on ne peut pas négocier. Il sollicite un certain type de rapport auquel, et c'est normal, c'est je crois la marque de toute œuvre digne de ce œuvre d'art digne de ce nom, qui oblige à une forme d'adhésion à lui-même en tant que tel, et pas bah ça c'est pas mal, puis ça on n'a qu'à attendre parce que ça ira mieux dans un quart d'heure quand elle aura fini avec cette scène-là. Là, il y a bon, c'est ce que j'avais plutôt appelé une dynamique ou un mouvement interne, mais qui est aussi une forme d'exigence et de rapport que le film établit. Le film a une existence, une forme de vie à lui qui fait qu'il oblige à prendre parti vis-à-vis de lui, donc c'est assez naturel qu'il déclenche ses réactions. Soit très enthousiaste, soit au contraire de rejet.
Vous n'aimez pas répondre aux questions, Anne-Marie Miéville, mais j'espère que vous aimez poser des questions, parce qu'avec vous, deux interlocuteurs
j'ai répondu.
Que vous avez choisi, Jean-Claude Guiguet, oui. Qui est critique et cinéaste, son dernier film c'est le Mirage, son quatrième, dont il était venu parler ici, et Gilles Merlet, qui lui est agent artistique.
Oui.
Alors, vous aviez une idée derrière la tête?
Non, j'ai pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment des questions à leur poser. C'est vrai que j'ai demandé à Gilles Merlet s'il avait la gentillesse de venir passer un petit moment avec nous. Il est effectivement agent artistique, mais bon, c'est peut-être pas seulement à ce titre qu'il est là. C'est vrai que dans ma brève, je dirais pas carrière, mais enfin mon bref passage dans le cinéma comme ça, j'ai rarement eu la chance de. Aussi, qui se passe une vraie rencontre avec un agent qui très vite est devenu un interlocuteur, où il était question du film, bon, de la comédienne aussi, mais vraiment du film avant tout. Il y a eu des difficultés de différents ordres qu'on a cherché à résoudre ensemble. Et je crois savoir qu'une fois le film terminé, je l'avais invité à venir le voir sur la table de montage. Oui. Et je crois qu'il n'a pas été déçu. Donc voilà, je l'avais invité, s'il a envie de dire quelque chose...
Tout d'abord, je vous remercie de cette invitation. Il est vrai que dès que vous m'avez envoyé, je me souviens très bien, vous m'avez envoyé quelques pages sur le film, et c'était une manière nouvelle pour moi, une nouvelle manière d'aborder, d'envisager la proposition de la comédienne qui allait venir, et d'envisager le travail avec vous, à travers elle d'ailleurs en même temps. Mmh. Et cette dimension artistique, véritablement artistique, était pour moi quelque chose de très important. Et l'accompagnement des aventures qui ont présidé à l'édification de l'édifice a été pour moi aussi un très grand moment de bonheur. Alors pour le résultat, pour arriver à cette projection, où effectivement j'ai rencontré là une œuvre, un film qui était pour moi plein d'espoir, qui transmettait et qui transmet, je l'ai vu encore jeudi dernier, hein, et c'est un film qui porte en lui une proposition, des propositions qui n'assènent rien, qui propose avec beaucoup de générosité, de sensualité, vraiment un espoir de vie. Alors c'est à la grande différence de ce que nous voyons très souvent dans les salles, et c'est là ce que ce but qui me semble très très beau et atteint. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le...
Ben, merci beaucoup. Jean-Claude Guiguet, on ne se connaissait pas. Moi, j'ai vu un de vos films, je ne me souviens plus le titre, qui se passait de l'autre côté du lac Léman, sur France.
Le Mirage.
Ah, c'est Le Mirage.
Oui,
voilà,
c'est ça.
J'ai oublié le titre, voilà. Et vous avez eu la gentillesse d'écrire un texte à propos de Lou, que j'ai trouvé, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, très élogieux, mais surtout un très beau texte poétique et... Enfin, qui m'a apporté beaucoup de joie et de chaleur.
Donc, je sais pas j'ai si eu vous... beaucoup de plaisir à voir votre film. Je vois pratiquement tous les films et vraiment, je dois dire que je suis ressorti dans un état d'enthousiasme absolu. Excusez-moi, c'est difficile de parler après Jean-Michel Frodon et Thierry Jousse qui ont dit des choses essentielles sur le film. Mais simplement, je voudrais dire que pour moi, dès l'ouverture du film, j'ai eu l'impression de me trouver dans un espace ouvert sur quelque chose de complètement libre, absolument singulier, un état dans lequel notre rapport au monde est brusquement nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui y a un art de vivre qui tout d'un coup se met en place, une sorte de compréhension des choses, alors que le monde est d'une infinie complexité. C'est le premier sentiment que j'ai eu dès les premières minutes du film, cette espèce de monde d'ouverture, comme ça, pour reprendre le mot de Rilke, l'ouvert, on est vraiment sur l'ouvert, c'est-à-dire on est dans un espace où il y a une sorte de circulation absolument libre, où tout d'un coup on respire. Et on respire... à la fois un air qui est extraordinaire, tout en étant complètement dans le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que c'est un film qui a sa force est d'être à la fois extraordinairement différent, et pourtant, il y a un rapport complet avec ce qu'il y a de terriblement politique dans le monde. Il y a un rapport au politique qui est très immédiat, qui est extrêmement violent, et que le film ne fait jamais l'économie de ce rapport-là. On a beaucoup parlé d'art tout à l'heure, et bien sûr, j'ai un peu peur que ça fasse un peu une sorte d'obstacle au spectateur qui, à mon sens... Aujourd'hui, d'ailleurs, l'art est très mal porté, comme vous l'avez dit, alors que c'est effectivement le pourquoi nous sommes au monde. C'est-à-dire que le rapport au monde, il passe par la réflexion que d'autres ont fait avant nous. On n'est pas là comme ça. Le passé nous a nourris et c'est ce passé qui féconde le présent et qui va nous aider à comprendre l'avenir. Le film d'Anne-Marie Miéville se situe dans cette espèce de circulation incessante. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est le fait que le rapport de l'homme et de la femme, qui a tellement, tellement servi au cinéma, est complètement neuf. Ça, pour moi, c'est une des choses magnifiques du film. Il y a cette chose indicible qui se passe entre le corps de la femme et le corps de l'homme, qui est presque de l'ordre de l'incompréhension. Et pourtant, il y a moyen de trouver une harmonie entre ces deux incompréhensions. Et le film, sans arrêt, essaye de nous montrer le chemin vers cette... Non pas, elle le dit très bien dans le film, c'est pas un commerce entre un homme et une femme, mais c'est un rapport d'humanité entre une humanité et une autre humanité. Ce qui rejoint ce que disait Jean-Michel Frodon très bien, mieux que moi d'ailleurs, c'est que c'est un film qui a un rapport avec la communauté. On part du couple, et le couple est une figure archaïque, peut-être désuète, peut-être dépassée, et ce film essaye de nous expliquer en quoi. D'ailleurs, la douleur du film, ce film extrêmement émouvant, la douleur vient précisément de cette énigme entre l'homme et la femme, que sans arrêt, Lou et Pierre essayent de résoudre. Il y a un entêtement chez les êtres à essayer de vivre la part de leur désir sans qu'il y ait trop de dégâts, sans que l'amour propre soit blessé. C'est une chose très très belle. C'est une chose qui a rarement été dite au cinéma, en tout cas dite avec une telle maîtrise. Ce qui me plaît également beaucoup dans le film, c'est que je parlais d'une espèce de monde nouveau. En fait, on a le sentiment que dans le film, il y a une élévation d'esprit qui fonctionne comme si cette élévation était une morale simplement élémentaire. Je pense que c'est pour ça que certaines personnes le rejettent, parce qu'on a d'abord, ça se porte assez mal, cette chose-là, mais on est dans un tel monde d'affaiblissement et de moisissure sur tous les plans, que tout d'un coup, quand on arrive dans un espace où on peut enfin respirer quelque chose de cet ordre-là, évidemment, c'est sidérant. On se dit, mais est-ce encore possible ? Vu l'état du cinéma, le film d'Anne-Marie Miéville est aussi un acte de résistance absolument fondamental, dans la mesure où elle n'est absolument pas soumise au dictat de la règle du marché. Elle n'a pas du tout envie de suivre les lignes narratives habituelles. Son récit est complètement singulier, et je trouve qu'elle a bien raison. Et en cela, le film est aussi une sorte de manifeste révolutionnaire. C'est confus tout ça, non ? Est-ce que vous...
Non, c'est non. Pas confus. Ça fait beaucoup de fleurs. Merci beaucoup. Non, mais je vous remercie.
Parce que c'est... En fait, je comprends votre difficulté à parler du film. Tout sur l'écran étant tellement maîtrisé, le résultat est d'une telle splendeur qu'avec les mots, on est forcément impuissant. On est là au pied de la beauté. Et on est obligé presque de s'expliquer, alors que le film est extrêmement simple. Il y a une espèce de rythme, de musicalité, de rapport au temps. La durée de chaque scène est parfaitement respectée. Elle prend dans le temps exactement le temps qu'il lui faut. Évidemment, c'est un cadeau. C'est une succession de cadeaux pour le spectateur, parce que c'est tellement rare, c'est tellement magnifique. Ce film est une renaissance. Mmh. Moi, je trouve que lorsque le cinéma atteint cette dimension-là, eh bien, c'est très réconfortant. Et le cinéma a des lendemains qui chantent, ça, c'est certain.
Oh, quelle bonne nouvelle. Merci beaucoup.
Je ne sais pas, Anne-Marie Miéville, quel est l'agent artistique qui vous a trouvé votre monteuse, mais elle s'est bien débrouillée. Hein.
Oui. Pour moi, ça fait partie du travail. J'aurais de la peine à... Je ne sais pas comment font les autres. Hein. J'aurais de la peine à confier. Et puis, c'est un des moments quand même fondamentaux de la construction d'un film. C'est là où les déchets s'en vont, où le rythme, les choses prennent leur rythme, s'imbriquent. C'est un travail que je pratique en solitaire, mais c'est passionnant. Et...
Thank you.
Nous allons parler maintenant de l'actualité des autres films qu'on peut voir en ce moment. Mais en ouverture de cette séquence, Thierry Jousse, vous vouliez parler de Guy Debord.
Oui, non, enfin, parce que la disparition de Guy Debord, pour moi, un événement assez important. Il se trouve que j'ai eu aussi l'occasion de voir son dernier film, puisque c'est son dernier film, le film qu'il a fait avec Brigitte Cornan, qui sera diffusé sur Canal+ dans un mois, le 9 janvier. Donc, comment dire, c'est difficile de parler de Guy Debord parce qu'on sait qu'il a refusé de façon assez radicale et rigoureuse tout compromis avec les médias. Donc, on est forcément dans une sorte de trahison en parlant, mais quand même. Non, moi, je voulais juste. Je trouve que la mort de Guy Debord est un événement qui vient un peu comme ça résonner pour moi avec un état des choses et un état des lieux. Et éventuellement un état des images, parce que c'est quand même quelqu'un qui... C'était d'une certaine manière, pour moi, le dernier penseur est authentiquement, du coup, révolutionnaire et radical d'aujourd'hui. Et ce qu'il a fait, disons, par rapport aux images et par rapport au cinéma, qui est un geste qu'on pourrait qualifier d'une certaine façon de nihiliste, parce qu'il s'est opposé d'une certaine façon à toute forme d'image, enfin... Et au cinéma, en même temps, c'est très passionnant parce que ça rend le cinéma d'une certaine manière aussi à une haute exigence face à l'exigence révolutionnaire et littéraire de Debord. Et au fond, moi, c'est ça qui m'a passionné et chez lui et qui me passionne toujours d'ailleurs. Et je voudrais dire un mot de ce film que j'ai vu, donc son dernier film qui s'appelle Guy Debord, son art, son temps, qu'il a co-réalisé enfin avec Brigitte Cornan donc qui pour Canal+, et ce film qui a l'air d'être un portrait de Guy Debord comme on supposait qu'il n'aurait pas accepté d'en faire, c'est-à-dire quelque chose qui aurait été sous la forme d'un entretien par exemple qui retracerait sa vie. C'est pas du tout ça, c'est un film qui va provoquer, je crois, un choc pour quand il passera à la télévision et pour ceux qui le verront, parce que ça, les 5 premières minutes disons évoquent certaines expériences artistiques de Guy Debord, dont certaines liées au cinéma, comme c'est son usage de l'écran noir ou de l'écran blanc, mais aussi, et il y a très vite une deuxième partie qui dure 55 minutes, qui s'appelle Son Temps, donc, et qui est un montage de documents volés à la télévision, enfin pris à la télévision, d'actualité, de journaux d'information, de magazines, un peu comme ça, genre Envoyé spécial. Et c'est tout ça est ponctué de cartons où Debord, comme ça, donne quelques traits, quelques aphorismes dont il avait le secret. Et c'est un film assez bouleversant parce que il dit quelque chose de l'état apocalyptique du monde, et il dit aussi quelque chose de façon assez radicale, et plus radicale encore à mon sens que par exemple le film de Marcelo Fulce, c'est qu'au fond la télévision est devenue le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un côté le monde et de l'autre les médias qui représentent le monde d'une certaine manière ou qui sont censés donner, mais il y a une confusion maintenant, une collusion je dirais entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence, et le film le dit avec une force, avec un humour aussi ravageur et un désespoir profond, et voilà, donc je trouve que c'est un film qui pour moi est assez important, et voilà, je tenais à le dire même si c'est un mois avant sa diffusion et si on en éventuellement pour en reparler.
Jean-Michel Frodon.
C'est un événement important.
Moi, je n'ai pas vu le film de et sur Guy Debord pour Canal+, je n'en dirai rien. Simplement, l'histoire de Debord avec le cinéma, elle est assez curieuse parce que, dans une certaine mesure, ce qu'il dit aurait dû le détourner de faire du cinéma. Il y a un paradoxe, il y a un hommage au cinéma dans le fait qu'il en fasse quand même, qu'il, à un moment et à plusieurs reprises, puisqu'il a fait 6 films, si on compte à la fois les longs et les courts-métrages, donc à plusieurs reprises, il se dit il faut y aller, il faut passer par là, il faut avoir affaire avec ça, et il le fait en même temps dans un malentendu, je crois, que lui partage sur l'équivalence ou la non-équivalence, le cinéma c'est du spectacle ou est-ce que c'est pas du spectacle, on va pas redévelopper ce que Debord disait du spectacle, mais lui n'est pas très sûr, je crois, du fait que le cinéma soit forcément du spectacle ou pas. Il y a une espèce de double jeu ou de combat avec un dragon à deux têtes dans cette affaire-là, qui, indépendamment presque de ce qu'on peut penser, des jugements qu'on peut porter sur chacun des films de Debord, et je crois que ce serait lui rendre un service assez stupide et ridicule de tomber dans la géographie absolue sur les films, travaille, alors là, une question importante sur qu'est-ce que c'est que le cinéma, pour en rester à cette question-là, sans partir sur l'ensemble des thèmes auxquels s'est confronté Debord, le spectacle dans le cinéma, l'idée que le cinéma comme spectacle donc serait le capital élevé à un point de densité tel qu'il devient image, ou l'hypothèse que le cinéma puisse être autre chose, y compris comme spectacle. On vient de parler pendant une heure du film d'Anne-Marie Miéville. C'est du cinéma, c'est un spectacle, et on n'est pas dans le régime du contrôle, de l'oppression, dans le régime de la soumission que Debord assigne au spectacle, dans la manière dont lui en peint. Ce sont des choses compliquées et qu'il ne faut pas traiter de manière simple en disant le spectacle, on sait déjà ce que c'est, soit de la manière dont le définirait le petit Larousse, soit de la manière dont l'a défini Debord.
Les autres films dans l'actualité, Thierry Zous, je vous propose de commencer par celui de Paul Vecchiali, Wonder Boy.
Wonder Boy, c'était un drôle de film. C'est un film un peu limite, lui aussi. C'est un film qui ne se tient pas très bien dans le cinéma aujourd'hui, au sens où il est comme ça, il a l'air de poursuivre une obsession très personnelle, qui est une sorte de recréation étrange et un peu fantomatique d'un type de cinéma qui ne se fait plus beaucoup, qui est une sorte de mélodrame comme ça, qui tourne autour du sport, avec un personnage de vamp, et puis un certain nombre de... comme ça, qui tourne autour de la boxe, plus particulièrement, et un certain nombre de personnages secondaires qui pourraient être un peu typés. Donc il y a un vrai parti pris qui n'est pas forcément nouveau, d'ailleurs, chez Vecchiali, qu'on a vu à l'œuvre dans un certain nombre de ses films précédents, de ressusciter un cinéma qui n'est plus, puisque c'est quelqu'un qui est toujours très marqué par le cinéma français, notamment des années 30, particulièrement par des cinéastes comme Grémillon, enfin, je sais pas, Jean-Claude Guillet qui me contredira. Et moi, Wonder Boy, je suis assez partagé sur le film. Je trouve que c'est un film dont j'aime beaucoup l'idée et le geste, et certains partis pris, certains acteurs, comme par exemple Fabienne Babe. Le personnage de Fabienne Babe, justement, cette femme fatale, assez réussie. Je pense en même temps que c'est un film qui ne parvient pas complètement à ses fins dans la capacité justement à redonner vie littéralement à des figures qui sont pour moi un tout petit peu passées, et ça donne un film étrange, pour moi très fantomatique et très curieux, assez inassimilable au cinéma contemporain, et sur lequel je suis comme ça très perplexe d'une certaine façon.
Jean-Michel Frodon.
Moi, j'aimais bien la manière dont Thierry Jousse a commencé en disant que c'était un film qui se tenait pas très bien. À mon sens, il ne se tient pas très bien au sens d'un mauvais élève dans la classe, ce qui n'est pas forcément antipathique. C'est un film, effectivement, qu'on peut raccrocher rapproché des autres films de Vecchiali, en ce sens qu'il fonctionne toujours avec deux éléments qui sont mis en rapport. Ici, de manière assez claire, il y a donc cette veine d'un cinéma français plus ancien, d'une part, et il y a une veine du roman noir américain, dont il reprend les codes, les personnages, les archétypes, les situations. Ces deux sont deux artifices qui sont reconnus et admis comme des artifices, utilisés comme tels. C'est en aucun cas un film qui se prétend naturaliste. Là où il y a, à mon sens, de la vérité, de l'émotion, et beaucoup de rigolade, parce que c'est un film où il y a du plaisir et de l'humour de manière fréquente, et dans la manière dont il entrechoque ces deux artifices qu'il a réunis et qu'il avoue, enfin avec lesquels il ne triche pas du tout vis-à-vis de ses spectateurs, la manière dont il les télescope, ou il prend l'un à contre-pied au nom de l'autre, et où il circule entre les deux, et qui, à mon avis... crée une espèce de vie, une circulation, un mouvement, à la fois des interrogations qui tout d'un coup ont l'air d'être très loin du petit théâtre comme ça qu'il a mis sur pied, avec beaucoup de générosité, beaucoup de simplicité, pour aller vers des choses assez riches et assez complexes en réalité, sans jamais avoir eu recours à des choses lourdes, où il est resté à la fois dans des éléments légers et qui ont tous été, qui sont joués carte sur table, je dirais. Mmh. C'est une chose assez sympathique dans le cinéma.
Jean-Claude Guiguet, je vois que vous avez envie de dire un mot sur le film d'Avecchiali.
Oui, c'est très, très juste. Je dirais presque que le modèle, c'est Rabbi Jacob. C'est-à-dire que le monde d'Avecchiali est traversé par les grands modèles des genres hollywoodiens qu'il admire. Et avec ça, il fait une sorte de melting pot. Et ça fonctionne plus ou moins bien. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà.
Il y a des films, Thierry, dont nous n'avons pas parlé encore dans cette émission, celui de Marcelo Fulce, par exemple, Veillée d'armes.
Je suppose qu'il va falloir aller vite, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, donc c'est un peu difficile. Enfin bon,
on va
essayer. Non, parce que
vous avez au moins 2 minutes.
Non, Veillée d'armes, c'est un assez gros morceau, d'abord parce qu'il fait 3h45, donc déjà il y a matière, et puis c'est un film qui brasse pas mal de choses d'aujourd'hui. Donc je veux dire qu'il est très très en phase avec, comme on dit, avec l'actualité. C'est quand même un film qui s'intitule qui se intitule en sous-titre Histoire du journalisme de guerre, ce qu'il n'est pas d'ailleurs tout à fait
en temps de guerre,
et qu'il n'est pas tout à fait, mais c'est plutôt un film d'intervention, alors moins un film sur Sarajevo avec beaucoup de guillemets qu'un film sur la façon dont les images, notamment de Sarajevo, mais aussi éventuellement de la guerre du Golfe ou d'autres périodes historiques même, sont produites. Donc l'essentiel du film, c'est Marcelo Fulce, reporter, Tintin reporter d'une certaine manière, qui part du côté de la Bosnie et qui effectivement va voir comment les journalistes travaillent. Il y a quelque chose, alors c'est assez curieux, c'est-à-dire que donc d'une part il y a ce personnage de Fulce qu'il se compose, qui est un personnage assez malin, assez facétieux, qui pose souvent des bonnes questions, assez rusé aussi, et puis il y a ce personnage de Fulce qui utilise des extraits de films de fiction en général assez anciens, qui viennent surgir comme ça, comme des éléments, je ne sais pas très bien, de commentaires, de mémoires, qui est une méthode assez, inhabituelle dans le documentaire, surtout dans ce genre de documentaire, et qui donne un ton très particulier au film. Il y a par exemple une très belle façon d'utiliser un extrait de « Seuls les anges ont des ailes » de Howard Hawks, qui est un très beau commentaire sur la situation du correspondant de guerre, donc par exemple à Sarajevo. Et je dirais que dans la deuxième partie, c'est plus une réflexion plus générale sur la production des images, entre les producteurs d'images, qui sont ceux qui sont sur le terrain, et je dirais ceux qui les digèrent, c'est-à-dire ceux qui sont souvent à Paris, dans les rédactions, des télévisions en particulier, et qui sont censés à la fois les diffuser, les monter éventuellement, les manipuler, les détourner et les présenter au public. Bon, il y a cette dichotomie qui est assez bien montrée. Alors, c'est pas du tout un film qui donne des directives définitives sur la question. C'est un film qui cherche, c'est un film vraiment qui a une sorte de carnet de bord. C'est vraiment un work in progress comme ça permanent, où je dirais au fond peut-être sa limite, c'est qu'on n'y apprendra pas tant de choses nouvelles que ça sur la question des images qu'au fond Danet ou Virilio ont traité de façon peut-être plus... Bon, par écrit évidemment, mais de manière plus claire sur le plan de la pensée. D'un autre côté, il me semble que ce qui intéresse vraiment Ophuls, c'est la question du travail. Et au fond, ça, ça passe quand même très fortement dans le film, c'est-à-dire comment une image est travaillée et comment elle est, d'une certaine manière, aussi disloquée parfois par le travail qu'on lui fait subir. Et puis un vrai, au fond, d'une certaine manière, un amour des gens qu'il interroge, ses correspondants de guerre, pour qui il finit par avoir une vraie affection. Et lui-même a l'air d'être d'ailleurs tenté, comme eux, de retourner à Sarajevo. Comme on sait que c'est quelque chose qui, je crois, est déterminant parfois pour certains des correspondants. C'est-à-dire l'idée qu'il faut y retourner. Et j'ai l'impression que Ophuls aussi a été traversé par cette expérience, qui est aussi, d'une certaine manière, un signe d'authenticité pour le film.
Jean-Michel Frodon.
Oui, c'est un film... Enfin, bon, Thierry Jousse a assez bien déroulé. C'est compliqué. Hein. C'est un film, on a compris que c'était un film très, très dense. C'est un film qui vit sur plusieurs niveaux à la fois. C'est un film qui cherche, effectivement... Une des choses, à mon sens, qui importante, qui court tout au long du film et qui s'élabore dans le temps et dans la durée du film et qui a besoin de cette durée, donc qui justifie effectivement que le film soit long parce que ça concerne une question dont on peut dire effectivement que Danet, par exemple, la réfléchit, mais je crois vraiment que ce n'est pas une raison pour arrêter le moins du monde, et qui est la question de la mise en scène, qui est la question de la mise en scène du cinéma et la question de la mise en scène de la télévision et du type de regard qui est porté sur le monde, sur la réalité, par des gens qui se revendiquent comme des metteurs en scène et qui sont les cinéastes, et d'autre part des gens qui prétendent ne pas mettre en scène mais reproduire la réalité et qui sont les gens des informations télévisées, et que la mise en jeu de ça, qui exige évidemment que Ophuls, cinéaste, soit lui-même dans son film, qu'il s'y mette en scène, sinon il recommencerait à tricher et à truquer par rapport à cette espèce de système qu'il instaure, qui n'est pas du tout un système démonstratif, qui est un système interrogatif, un système où chaque élément sert de critique ou de remise en cause des autres. Cet ensemble-là, il est très dense, il est très arborescent. En même temps, il est très jubilatoire. Il y a la présence de Ophuls lui-même, il y a la présence d'extraits de films qui sont toujours choisis à la fois avec humour. Il y a sa manière très incisive de poser les questions. Il y a un sens du montage, même parfois un peu truqueur, mais un peu truqueur parce qu'il cherche un effet, ou il cherche un coup de sens ou un coup de sourire en plus, mais qui se laisse voir, donc qui en même temps n'est pas malhonnête dans l'usage qu'il en fait, qui font que c'est un film avec lequel on n'en a pas fini. Il me semble, ça s'entend que et Thierry et moi avons un peu de mal à en parler parce que c'est un film qui continue à produire des questions et à donner envie de réfléchir. Ça aide tout de même à voir différemment un certain nombre de mécanismes existants dans le cinéma, surtout dans les images télévisées, aussi dans les rapports entre les informations télévisées et les informations de la presse écrite, puisque ça fait partie des débats qui sont abordés. C'est un film qui le fait à la fois avec un certain nombre de prises de position très fortes, en particulier sur l'attitude des grandes puissances, notamment de la France vis-à-vis de la Bosnie, mais qui en même temps n'est pas construite sur cette espèce de dénonciation facile et qui souvent permet de faire l'économie de la compréhension du fonctionnement des médias, même si la critique est fondée dans son fond. Et donc c'est un film qui nourrit beaucoup de choses. À ce titre, je crois que c'est un film important et qui fait bon usage du cinéma.
Quartier libre dans les deux dernières minutes, Thierry.
Oui, ben je voudrais juste revenir, poursuivre sur le documentaire sur Tsahal, le film de Claude Lanzmann dont on avait, je crois, pas parlé, parce que c'est un film qui me semble avoir été un peu mal compris ici et là, sauf dans le monde d'ailleurs. Je dis pas ça parce que Jean-Michel Frodon est là, mais c'est vrai que ça m'a semblé moins le cas là qu'ailleurs. Non, simplement parce que c'est un film où il y a un vrai projet de cinéma. Alors on peut dire effectivement politiquement le film est discutable, et il l'est, ô combien. Mais néanmoins, je voulais juste rappeler que Lanzmann, qui avait fait Shoah, était quelqu'un qui avait aussi un projet de cinéma, qui était au fond de mettre en relation un territoire qu'il filme assez admirablement, je trouve, par moments, qui est le territoire d'Israël en l'occurrence, et des récits, des voix, qui sont en général des récits de guerre et des récits de soldats, et que je trouve que cette articulation entre quelque chose qu'on entend mais qu'on ne voit pas, et quelque chose qu'on voit et qu'on, j'allais dire qu'on n'entend pas, mais qui est quelque chose aussi d'abstrait d'une certaine manière, je trouve que ça produit souvent des effets très forts, et que Lanzmann est un vrai cinéaste, qu'il faut quand même, me semble-t-il, redire. Et alors, évidemment, par ailleurs, je partage un certain nombre de réserves politiques sur le film, mais bon. Voilà.
Je vois que Thierry, vous avez vu aussi un film qui s'intitule L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça, c'est la suite de Jacques n'a pas dit oui.
Pas exactement. Non, c'est un film de Tim Burton et Henry Selick d'ailleurs, puisque Tim Burton est celui qui a eu l'idée le du film et qui est le concepteur. Et Henry Selick, c'est celui qui l'a réalisé. C'est-à-dire, c'est un film d'animation qui est tout à fait dans la lignée. En même temps, il se trouve que moi, j'aime pas beaucoup les films d'animation, donc je suis pas très client de ce genre de cinéma. Et là, en l'occurrence, j'étais extrêmement, impressionné par le film, parce que c'est un film qui est tout à fait dans la lignée du meilleur film de Tim Burton à ce jour, c'est-à-dire Édouard aux mains d'argent. Donc c'est un film de démiurge où il y a de l'enfance, et en même temps l'enfance en tant qu'elle est jamais mièvre, et elle est plutôt travaillée par le macabre et par le grotesque. Et c'est un film, je trouve, qui présente aussi une image de l'Amérique qui est un peu moins sympathique et un peu moins comme ça réconciliatrice que beaucoup de films américains aujourd'hui.
Merci à tous, Anne-Marie Miéville, Jean-Claude Guiguet, Gilles Merlet, Jean-Michel Frodon, Thierry Jousse. Le film d'Anne-Marie Miéville, Lou n'a pas dit non, sort le 21 décembre. Accès direct, Christian Fontaine, Bruno Sourcy, Didier Pinault, Alain Weinstein. Je vous retrouve dans 5 minutes après les informations avec Antoine Schnapper autour de son livre « Curieux et collectionneur du grand siècle ». À tout à l'heure.